directeur de groupe hospitalier Paul Biraud. J'avais quatre petits points à évoquer. Ça s'adresse en fait à toute la table ronde et aux collègues. Premier point, qu'en est-il des malgrés qui sont suivis de nouvelles mesures, parce que la malgré est intervenue pour des raisons de pure forme, délai, absence de notification dans le délai, etc. Les cours d'appel de Paris et de Versailles viennent de juger qu'on ne pouvait pas faire de nouvelles mesures après une malgré. Donc le problème de la continuité des soins me semble posé, d'autant plus que ça m'est arrivé d'avoir des appels du procureur un peu se faisant l'interprétation d'énervement de certains juges
qui disent mais monsieur le directeur, faites-le sortir ne serait-ce qu'une demi-heure à une heure avant de prendre une nouvelle mesure. Et j'ai des médecins qui me disent pas un quart d'heure, monsieur le directeur, il ne doit sortir. Bon, et qui argumentent les raisons pour lesquelles ils sont sur cette position-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, c'est ça ma question. D'autre part, que pensez-vous de décisions de juges qui portent des appréciations vécues comme de l'ordre de la clinique par les médecins sur le contenu des certificats, voire disent « Oh ben, j'ai vu madame une telle, elle va mieux ». Et donc, on peut considérer que dans 10 jours, elle va passer en programme de soins. Et donc, main levée dans 10 jours. Sans nouvelle audience ni nouveau certificat, là, tout à coup. D'autres questions je termine, j'en ai plus de mots. En face de ça, on a une j'assiste aux prémices d'une radicalisation de certains médecins qui refusent de prêter la main et de mobiliser le personnel soignant pour notifier les droits et les décisions. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, par rapport à ça ? Et enfin, moi, j'adore le syndicat de la magistrature depuis très longtemps. Je les aime beaucoup, ces gens-là. Mais ce que j'ai entendu sur l'intervention d'un juge dont le métier est principalement pénal, dans une affaire qui n'est pas principalement de privation de liberté, mais qui est principalement de soins, ça, je ne peux pas l'entendre sans réagir de manière totalement... Enfin, c'est une incompréhension totale entre nous. Le juge des tutelles, il se trouve que le juge des majeurs protégés, il s'occupe déjà de 37% de nos patients. Les soins sans consentement à Paul Guiraud, c'est 40% des patients. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Ce n'est pas forcément les mêmes, mais disons que l'intersection est très large et que ça se passe bien avec le juge des majeurs protégés. Ça se passe bien parce qu'il y a cette proximité, cette confidentialité. Le principe du contradictoire n'est pas mis en cause. Donc vraiment, là, je pense que la position de la DESM est la bonne et la position du syndicat de la magistrature est incompréhensible sur ce point de vue-là. Vous êtes dans une logique purement juridique et nous sommes dans une logique de soins. Il faut sans cesse le rappeler.
D'accord. Monsieur Gadran, on va peut-être vous laisser répondre de manière synthétique et ensuite il y aura une dernière question, enfin si vous le voulez bien.
Est-ce que je dois commencer par dire que j'adore les directeurs d'hôpitaux ?
Ça dépend quel syndicat. Alors
ah là, oui, ben, engagez, j'ai pas mes fiches, pardon. Non, que vous dire ? Je veux dire, vous me dites ça se passe bien avec les juges des tutelles, mais ça peut bien se passer aussi avec les JLD. Quoi. Je veux dire, je pense que j'ose espérer que certains de vos collègues ici présents ont quelques bonnes expériences avec les JLD. Alors, j'ai pas vu le directeur de Charles Perrins aujourd'hui, je sais pas s'il est là, mais ils auraient peut-être pu dire que ça se passait pas si mal avec moi à Bordeaux. Donc,
vive l'Aquitaine.
Bon, ça me rassure. Donc voilà, je crois que ça peut pas être un argument. Alors après, d'accord, c'est une mesure de soins, mais c'est une mesure. L'hospitalisation complète est une mesure privative de liberté. C'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil constitutionnel. Rien ne justifie. Et l'activité du JLD, elle est en partie pénale. Elle est effectivement parfois en grande partie pénale. Alors, je crois qu'on peut pas généraliser à partir de l'expérience qu'on peut avoir douloureuse dans son établissement pour en prendre une position. Moi, je crois effectivement qu'il est important, alors que ce soit un juge des libertés, qui prennent cette décision. Alors pour être tout à fait clair, aujourd'hui, cette position, elle n'est pas clairement prise par le syndicat de la magistrature, puisqu'on va, ça fait partie des sujets sur lesquels on doit se prononcer lors du congrès. C'est ma position aujourd'hui, qui est partagée par quelques-uns de mes collègues, syndiqués ou pas d'ailleurs, parce que je crois vraiment, sincèrement, que c'est une fausse bonne idée, que ça, c'est pas ce qui réglera le problème, et que si la question de la formation des magistrats, éventuellement, parce que je crois que peut-être que malheureusement, dans beaucoup d'endroits, on n'a pas assez travaillé en amont, d'abord dans le dialogue entre les établissements et les juges, et ce qui a provoqué pas mal de difficultés dans certains lieux. Et puis, parce que je crois qu'on doit travailler sur des formations croisées, que les juges ont besoin d'être formés et d'avoir de mieux comprendre ce qui se passe sur le plan médical, etc. Et de la même façon que je pense que dans les hôpitaux, c'est intéressant d'avoir de mieux comprendre les principes sur lesquels le juge se base, notamment quand on parle du contradictoire, etc. Moi, ça a fait l'objet de discussions, notamment sur la question de la divulgation du nom du tiers. Je sais qu'on a eu des discussions importantes, moi, en amont, avec les psychiatres à Bordeaux, avec le personnel des établissements hospitaliers, parce que effectivement, il y avait une incompréhension au départ, mais si on prend le temps de s'asseoir et d'expliquer et de confronter les points de vue, on finit par se comprendre et on trouve des solutions qui sont acceptables par tous. Alors je sais pas, j'avais noté autre chose. Simplement, alors sur la première de vos observations sur les mains levées, je suis pas la Cour de cassation, c'est pas moi qui dis le droit, mais il me semble que si on a une main levée pour un motif qui est un motif purement procédural, il suffit qu'un nouveau certificat établisse que les conditions prévues par la loi pour une hospitalisation sont toujours réunies, et je ne vois pas ce qui empêcherait de prendre une nouvelle décision. Par contre, effectivement, si la main levée, elle est sur un motif sur le fond, parce qu'on considère que la mesure n'est plus justifiée, là, c'est vrai qu'à mon sens, il faut justifier de circonstances nouvelles si on veut réhospitaliser la personne de suite. Mais ça, là encore, ce n'est que ma pensée qui vaut ce qu'est vous.
D'accord. Merci. Monsieur Delarue, vous souhaitiez intervenir ?
Juste un petit point, mais il est absolument criminel de penser tout, et donc je suis un criminel à cet égard. Je voudrais reprendre les deux premières questions en les groupant de monsieur le directeur, de Paul Guiraud. Nous sommes en jachère de ce qui était la philosophie même de la loi du 5 juillet sur le programme de soins en ambulatoire. Nous avons dit tous les uns et les autres que nous ne savions pas très bien quelle consistance il fallait accorder à cela. Je retombe dans une des choses qu'évoquait la Cour européenne des droits de l'homme à propos de l'hospitalisation sous contrainte ou sans consentement. Elle a dit que ça ne peut pas se faire sans avoir réfléchi aux alternatives. Est-ce qu'il ne faut pas demander au juge, au fond, quatre hypothèses lorsqu'il statue sur le maintien ou pas d'hospitalisation? C'est un, maintien. Deux, main levée pour irrégularité. Et je partage en effet l'avis du Frise Sangara. Il faut que ça puisse poursuivre l'irrégularité corrigée, naturellement. Je crois que tous les juges raisonnables pourraient penser là. Troisième hypothèse, main levée, point final. Et quatrième hypothèse, peut-être, main levée avec demande à l'hôpital dans les deux jours, et donc on continue l'hospitalisation encore pendant deux jours, d'élaborer un programme de soins ambulatoire. C'est rechercher des alternatives. Et par conséquent, si le juge estime en son âme conscience qu'il faut main levée, est-ce que ça doit signifier nécessairement la main levée, vide absolu, on renvoie le malade chez lui? Ben non, ça peut peut-être signifier autre chose.
Okay. Merci. Dernière question, rapidement, s'il vous plaît.
Docteur Gilles Vidon, je suis responsable de pôle chez Denis Fréchoux aux hôpitaux de Saint-Maurice. Alors, moi, j'ai été tout à fait impressionné par la qualité de vos exposés, mais également extrêmement déçu. Bon. Extrêmement déçu parce que je trouve que, bien qu'étant qu'une association, vous ne prenez pas position sur le fond. La loi du 5 juillet a introduit trois importantes modifications sur la philosophie des soins. Premièrement, judiciarisation. Deuxièmement, trois principaux. Hein. Deuxièmement, internement sans tiers. Hein, mais ça, c'était quelque chose qui était souhaité par tout le monde. Donc, on a donné réponse. Et troisièmement, les soins obligatoires ambulatoires. Est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre? Je pense qu'il faut que vous le disiez clairement. Vous avez fait un énorme travail. Enfin, tous vos exposés rendent compte d'une analyse extrêmement importante, mais de la virgule, de la forme, de la mécanique de la loi. Mais pas du fond. On est pour ou on est contre? Je suis pour la judiciarisation complète de la loi. Il ne peut pas y avoir deux maîtres à bord. Il ne peut pas y avoir d'une part le juge, d'autre part le préfet. Ça n'existe nulle part au monde. Alors, le préfet, il fait l'ordre public et il amène des gens à l'hôpital s'il le faut. Le juge, pendant l'hospitalisation, va s'occuper des libertés et ensuite éventuellement des programmes de soins. Et les médecins délivrent des soins. Si on respecte ces trois fonctions qui sont attachées aux États, je crois qu'on va enfin pouvoir travailler sereinement. Alors, Monsieur Gadra, je suis très embêté parce que la plupart des magistrats que j'entends ou que je côtoie donnent des réponses dilatoires. Alors, vous honoreriez votre profession en réclamant une augmentation des effectifs et en ne vous retranchant pas derrière d'eux, le juge des tutelles, il peut se déplacer, le juge des libertés, il ne se déplace pas, ou bien le tribunal, ou bien ceci ou cela. Alors, le juge à l'hôpital, ça donnerait quoi? Ça donnerait que, par exemple, des médecins seraient présents aux audiences, ou appelez ça comme vous le voulez. Moi-même, j'ai été à plusieurs reprises au TGI, au cours d'appel, pour défendre, entre guillemets, des patients à moi. Bon. Je peux vous assurer que le climat est différent quand les médecins qui connaissent le mieux les patients, ils sont là. Non, et les juges sont très contents de les avoir. Bon, mais évidemment que nous n'allons pas nous déplacer 3 à 4 fois par semaine dans les tribunaux. Bon, si le juge venait à l'hôpital, c'est évident que ce serait beaucoup plus facile pour tout le monde de se rencontrer, d'éclairer nos positions respectives et d'éviter les différentes mésaventures qui sont survenues. Donc le juge à l'hôpital, ça doit être un slogan. Enfin, ça doit être, et vous, votre slogan, ça devrait être augmenter nos effectifs, nous n'y arrivons pas pour cela. Alors, les soins obligatoires ambulatoires, en voulez-vous, n'en voulez-vous pas? Est-ce que c'est bon pour les malades? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est un traitement? Est-ce que c'est la poursuite d'un traitement indispensable? Moi, je pense complètement oui. Bon, complètement oui, il faut les continuer. Les psychiatres, autrefois, avaient inventé les sorties d'essai, les permissions, les trucs de ce genre-là, pour permettre qu'il y ait des soins à l'extérieur de l'hôpital. Alors, il faut travailler le sujet. Il faut dire qu'on le veut absolument et il faut le travailler. Bon. Moi, dans ma clientèle, on a 2500 personnes qui sont suivies par le pôle. 2500 personnes, j'en ai une que je vais voir. Enfin, il y en a une qu'on va voir à domicile. Monsieur Fréchou est là, mon directeur. On va voir à domicile. Il y en a un qui la tient pendant qu'on lui fait une piqûre. Bon. C'est très mal, dit le Conseil constitutionnel. Mais si on ne fait pas ça, c'est quoi? C'est qu'il faut la prendre, l'amener à l'hôpital, lui faire l'injection à l'hôpital et qu'elle ressorte une semaine ou deux semaines après. La ramener au bout de 15 jours, etc. Alors, on ne peut pas évacuer ces problèmes-là. On ne peut pas évacuer le fait qu'on nous demande quotidiennement d'intervenir pour les familles, les syndics, les plaintes de voisinage, le bureau d'aide sociale, etc. La mairie, je reçois des lettres de la mairie, me disant il faut que vous interveniez, monsieur Intel, dans son immeuble, etc. Et je ne sais pas quoi, etc. Alors, on nous demande quotidiennement d'intervenir et on le fait. On le fait parce que c'est fondé dans la plupart des cas. On ne peut pas laisser abandonner des gens en proie à un trouble mental important, faire n'importe quoi chez eux et attendre qu'au bout d'une semaine, trois semaines, cinq semaines, un mois, se produise ou un drame ou bien l'intervention de la police enfin, ou etc. Donc, il faut donner un petit peu plus de...
Vous pouvez... Terminer assez rapidement, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, bon, je vais peut-être. Merci pour ce questionnement roboratif que, bon, pour certains aspects, on partage, mais bon, je vais peut-être laisser, effectivement, en m'excusant de vous avoir interrompu, laisser notre président réagir, et puis ce qui permettra de faire la transition avec la suite.
Mais merci, et pourtant, vous étiez en début de séance, docteur, donc vous nous avez entendu parler et à la fois fixer notre politique pour l'année à venir. Donc ça me permet de la réaffirmer, parce que vous nous dites, mais vous ne vous êtes pas positionné pour ou contre. Si, on est positionné pour la réforme de la réforme. Et on est positionné pour une nouvelle réflexion, non plus sur les modalités. Aujourd'hui, on a été très bon sur les modalités, mais on n'a pas repris les finalités. Qu'est-ce qu'on veut exactement? Et on était tous d'accord, l'ADES, on a travaillé dessus, réformer la loi Emmanuelli. Elle n'était pas parfaite, c'est sûr. Il fallait l'améliorer. Mais on n'a jamais discuté de l'intervention du juge. Nous voulons, et nous avons tous dit, on est pour le juge. On est effectivement tout à fait d'accord pour ce contrôle du juge, contrôle dès la première minute de l'hospitalisation sans consentement, dès la première minute où la liberté est attaquée. Mais nous voulons le minimum du minimum du respect de la Constitution. Pourquoi? Parce qu'autrement, ça devient une charge considérable de type administratif et technocratique. Nous ne réfléchissons même plus sur ce qui on est. Qui nous sommes? Nous sommes des producteurs de soins, d'abord. Donc nous donnons du soin. La production que nous faisons, ce n'est pas de l'internement. Ce n'est pas de l'enfermement, c'est du soin. Et donc la réflexion que nous devons mener, c'est devons-nous faire un soin libre, ou j'aime pas le mot soin libre, mais un soin normal, ou un soin avec un environnement un environnement de non-consentement. Le soin sans consentement, c'est un soin avec une modalité qui est le non-consentement. Ce n'est pas en soi la modalité première de nos établissements, ce n'est pas d'enfermer, ce n'est pas l'internement, ce n'est pas le soin sans consentement. Alors c'est pour ça qu'il n'y a pas, à mon sens, lieu à audience. D'ailleurs, on en parlera, ce sera notre position. Deuxième position, donc affirmée très clairement aujourd'hui, nous sommes effectivement favorables au concept d'audition et non pas l'audience. L'audience constitue le constat d'une opposition entre le soigné et le soignant. Or, nous ne sommes pas dans cette opposition soin versus soigné, le soignant versus soigné, mais nous sommes simplement dans une imposition que nous avons tous constaté que le soin sans consentement est obligatoire ou que le soin n'existe pas sans le consentement. Mais nous avons tous consenti au fait qu'il y avait un soin sans consentement. Donc, et nous n'avons pas une prestation qui serait le non-consentement en premier. Non. Donc toute la logique de notre réflexion à partir de maintenant, c'est cela. C'est de réfléchir en disant quelle loi devons-nous avoir pour permettre à des soignants d'utiliser le non-consentement comme une modalité du soin. Et du coup, nous pouvons réfléchir aussi à une autre approche, qui est une approche de où sont les soins sans consentement. Ils ne sont pas seulement dans nos établissements. Nous ne sommes pas, encore une fois, les seuls à être obligés de faire du soin sans consentement. Ça existe en réanimation, ça existe dans les services d'urgence. Et pourquoi, dans ce cas-là, n'aurions-nous pas un juge formé aux soins sans consentement? Et le contrôle du soin sans consentement devrait exister également, et bien pire peut-être, dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Nous avons des responsabilités dans des établissements pour lesquels nous n'avons pas aujourd'hui la garantie d'offrir la liberté à des personnes qui sont effectivement sous notre responsabilité. Voilà notre positionnement. Et il est clair, il est très clair, et nous le réaffirmons. Alors nous réaffirmons aussi la stupidité qu'il y aurait à, comment dirais-je, réformer seulement deux articles au moment où on est en train de réfléchir sur des problèmes aussi fondamentaux. Alors qu'on n'offre pas, alors que le législateur a travaillé, a fait quand même une évaluation qui s'appelle Biscot-Lefranc, une évaluation du système avec des propositions, alors que, monsieur Delarue, vous avez vous-même fait des propositions, alors que le défenseur des droits prend le dossier, nous sommes là à l'orée d'un dispositif, et on s'arrêterait en chemin, on ferait deux petits articles modifiés, comme ça. Bon. Non, il faut prendre le dossier à bras le corps, le traiter complètement, ou alors on n'en parle pas, parce que, comme je disais ce matin, c'est le bûcheron qui a deux branches à élaguer, mais qui sait que l'arbre est pourri et qui va effectivement élaguer les deux branches. Enfin, le système en cours, notre travail d'aujourd'hui, nos travaux généraux, nos participations et nos débats ensemble exigent aujourd'hui qu'il y ait un véritable travail législatif. Et ça, c'est clair, nous nous sommes prononcés, nous nous prononcerons encore, nous ne resterons pas silencieux dans ce dossier.
Très bien.